Salut à tous et bienvenue, c'est l'émission L'eau à la bouche du mois de mai 2010. L'eau à la bouche, une émission interassociative proposée et présentée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange, diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Divergence FM et Radio Clapas. Une émission en trois parties ce mois-ci. Tout d'abord, découverte du site internet Carrefour des patrimoines en Languedoc-Roussillon, avec comme invité Elisabeth Lebris, chargée de mission éducation à l'environnement et patrimoine pour le réseau des CMEA en Languedoc-Roussillon, le site internet carrefour-des-patrimoines.net. À l'initiative de l'Observatoire des saisons et de la Société française d'orchidophilie, appel à participation à tous les citoyens pour suivre la floraison des orchidées. Nous serons en ligne avec Violette Roche, responsable de projet science citoyenne au réseau Tella Botanica. Et puis enfin, actualité et sortie nature printanière, direction Au Largue, au centre Sébéna, à l'ouest du département de l'Hérault, avec Magali Peyer. Et puis enfin, comme dans chaque émission, un seul album de musique tout au long de L'eau à la bouche. Ce mois-ci, nous avons choisi le quatrième album du Béninois Julien Jacob, intitulé « Sel ». Partie de l'émission L'eau à la bouche avec Elisabeth Lebris. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Chargée de mission éducation, environnement et patrimoine pour les CMEA au niveau régional et national. Nous allons notamment parler d'un site internet nommé Carrefour des patrimoines qui rassemble plusieurs associations, les CMEA, le Grain et le Passe-Muraille. Alors peut-être dans un premier temps, avant de décliner ce que vous faites au sein des CMEA, peut-être nous parler du Carrefour des patrimoines, ce site internet. D'où est venue l'idée de créer ce carrefour ?
Il est venu, l'idée est née il y a 8 ans à peu près, sur une volonté de pouvoir utiliser l'éducation à l'environnement et au patrimoine dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Et en se disant que par le patrimoine, par l'environnement, on pouvait impliquer les gens dans une action régionale, notamment quand on parle de notre région, et qu'il fallait rendre accessibles ces deux cultures, celle du patrimoine naturel, celle du patrimoine culturel. Donc, dans un premier temps, on a décidé de travailler avec les acteurs déjà présents. Donc nous, les CMEA, on est plus spécialistes de la formation, spécialistes de l'éducation à la citoyenneté, éducation populaire. Et on a été chercher le GREN, qui est le réseau des acteurs d'éducation à l'environnement naturel, et le Passe-Muraille, qui est une association sur Montpellier et présente dans la région assez importante sur l'éducation au patrimoine. Et à trois, on s'est dit, bon ben voilà, comment on peut agir, comment on peut valoriser le patrimoine de cette région.
Mathieu Tellen.
Est-ce qu'on peut donner la définition de deux mots, à oui. savoir patrimoine et ensuite CMEA?
Alors, je vais commencer par les CMEA. Les CMEA, c'est une association d'éducation populaire qui s'est créée en 1937. C'est centre d'éducation aux méthodes, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc c'est pour ça que je dis 1937, parce que on n'a pas changé le terme depuis. On est inscrit dans les mouvements d'éducation nouvelle. Ça veut dire que l'objectif est de former des gens en faisant. Donc c'est pour ça qu'il y a l'entraînement, c'est pas le côté militaire du centre d'entraînement, bien entraînement, et on forme en faisant les choses. Et pour nous, le patrimoine, c'est ce que nos pères nous ont laissé. Et donc, dans les patrimoines, on a dans notre entourage un patrimoine culturel que l'homme a construit, et puis un patrimoine naturel qu'on a construit, plus ou moins, qu'on a aménagé. Parce que quand on regarde notre région, qu'est-ce qui reste qui n'a pas été touché par la trace de l'homme? Donc voilà, tout ce qui nous est offert de notre passé, qui a fait un chemin, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on travaille avec.
Et alors, au chapitre des définitions, on entend souvent parler donc d'éducation à l'environnement. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression?
Éducation à l'environnement, ouais. Alors, au début, au CMA, on parlait découverte du milieu. C'était les premiers termes qui ont existé, alors pas qu'au CMA, mais d'une manière générale, on parlait surtout de la découverte du milieu. Dans toute la découverte éducative qu'un enfant va avoir besoin pour grandir, il y a aussi regarder autour de lui, et la nature, il faut vivre avec, et pour pouvoir vivre avec correctement, il faut la connaître. Donc c'était déjà les premières traces, les premières bases. C'est devenu maintenant éducation à l'environnement. Parce que je crois qu'il y a aussi un effet de mode. Et puis, il faut apprendre pour le respecter, pour vivre dedans, il faut de toute façon le découvrir. Et comme maintenant, on n'est plus sur des termes d'éducation que de découverte, il s'est aussi banalisé comme ça.
Alors, j'entends nouveau mouvement d'éducation. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à éducation alternative? Et puis, quelle place vous prenez par rapport à, entre guillemets, l'éducation nationale?
Par rapport à l'éducation nationale. Alors nous, les CMA, on travaille avec l'éducation nationale. On a des enseignants qui sont... on n'a plus beaucoup, mais on a quelques enseignants encore détachés qui travaillent avec nous. Et puis, on a des enseignants dans le réseau. Et puis, on travaille aussi sur des outils qui peuvent être utilisés par l'éducation nationale. Alors après, notre différence, c'est qu'on s'inscrit dans l'éducation nouvelle. L'éducation nationale, aujourd'hui, même si elle va utiliser, et si des enseignants vont se former et utiliser des outils, elle ne s'inscrit pas réellement dans les méthodes d'éducation nouvelle, qui ne sont pas si nouvelles que ça. Hein. Les méthodes d'éducation nouvelle, elles ont plus d'un siècle. Mais et dans l'éducation nouvelle, nous, on va... Alors, en plus, au CMA, on est sur les méthodes actives. Donc, dans l'éducation nouvelle, c'est il faut faire, il faut monter des projets, et c'est en montant des projets qu'on va comprendre le fonctionnement des choses. Donc on est vraiment sur faire. Et l'espace actuellement de l'école n'est pas forcément adapté à pouvoir faire. Quand un enseignant intervient pendant une heure, il n'a pas le temps de mettre les gens en chantier, le public en chantier, pour pouvoir faire. Donc c'est un autre fonctionnement. Nous, dans nos centres de formation, quand on fait une intervention, en général, elle dure 3 heures. Même des fois une semaine, parce qu'on monte des projets, parce qu'on fait, on agit ensemble.
C'est une éducation qui prend le temps de mettre en place des projets.
De mettre en place et de tester. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire pour apprendre. Il ne suffit pas qu'on nous dise il faut faire ça comme ça. Il faut qu'on se le teste et il faut que les gens qui vont recevoir l'information puissent le faire. Alors l'éducation nouvelle est très présente dans toute l'éducation à l'environnement d'une manière générale. Pas seulement au CMA. Elle est présente. C'est vrai que comment s'éduquer si on ne sort pas dehors? Comment découvrir des arbres, des oiseaux, si à un moment donné, on ne va pas les rencontrer, on ne va pas les observer, on ne va pas faire des choses dedans? Quand on veut expliquer comment on monte un mur en pierre sèche, c'est bien de le faire, même si on ne fait pas un mur complet, mais au moins de faire une partie du mur. Donc c'est vrai que l'agir, c'est toujours retrouvé dans ces deux éducations.
Mais du coup, où se situe la limite entre « je te montre ce qu'il faut faire » et puis l'autre côté de dire « vas-y, fais ce que tu penses qu'il faut faire ». Quoi, je veux dire, entre moi, maître, qui montre l'exemple en disant « il faut faire ça » et puis l'autre côté qui est de dire « fais par toi-même et fais ton expérience », où est-ce que vous situez cette limite? Si je prends l'exemple d'un mur en pierre, où est-ce que vous allez mettre la limite?
Alors, dans l'éducation nouvelle, les deux sont possibles, il y a tout. L'éducation nouvelle, en fin de compte, elle part de... il y a un individu, on veut l'emmener là, dans son savoir, et on va prendre les moyens qui lui seront plus adaptés. Alors il y a, pour certains, il y a « je vais expliquer », puis tu vas après, une fois que je t'ai montré, tu vas essayer de le refaire. Pour certains, où il n'y a pas l'écoute et où on n'a pas le temps et où on ne sait pas écouter, vas-y, essaye. Et puis si tu n'y arrives pas, tu vas venir me le demander, et puis là, tu vas m'écouter parce que tu seras motivé. Donc en fin de compte... on recherche tous les outils pédagogiques qui vont nous permettre de répondre à tous les individus qu'on va avoir en face de nous. Et donc, suivant les publics, on va utiliser toutes les méthodes. Mmh. Un cours magistral peut être utilisé en éducation nouvelle. On n'est pas contre ça. On n'est pas, c'est vraiment se dire, un cours magistral à des jeunes qui n'arrivent pas à tenir sur une chaise, ils ne vont rien apprendre.
Oui, finalement, donc, vous cherchez des acteurs plutôt que des spectateurs ou des gens qui font que ingurgiter de l'information sans...
Oui, puis en pédagogie, on a tendance à dire quelqu'un va vraiment maîtriser un savoir le jour où il est capable de le retransmettre. Donc, voilà. C'est le principe. À l'école, on le retrouve, ça, à l'éducation nationale. Quand les enseignants travaillent sur l'exposé, fait un exposé sur un sujet, un gamin qui va étudier un sujet et va être chargé de l'apprendre aux autres, eh ben, son sujet, il s'en rappellera, et souvent pendant des années. Alors que le cours qui a été fait pendant une heure en face de nous, eh ben... trois jours après, dix jours après, il a été oublié. Le fait d'être acteur, de le maîtriser, le mémorise aussi, on est impliqué dans notre propre apprentissage.
Et pour vous, ce sont des systèmes d'éducation qui sont complémentaires l'un de l'autre ou c'est plus une opposition frontale entre des méthodes différentes ?
Non, je crois pas. Faut pas être dans une opposition frontale. Par contre, alors, où on est dans deux directions différentes, c'est où nous, on se dit, il faut vraiment s'adapter au public qui est en face de nous, et on ne veut pas demander au public de s'adapter. Et souvent, dans certains endroits, je pense à la fac, l'étudiant, il va s'adapter au prof qui est en face de lui, quoi. Et nous, on pense que ça, c'est pas assez opérationnel.
Y a-t-il un public, Elisabeth Lebris, pour être aujourd'hui éduqué à l'environnement ?
Ah non, nous, on espère que tous les publics peuvent être éduqués à l'environnement, à des niveaux différents.
Mais répondent-ils présents, quoi ? Y a-t-il une demande ?
Alors, il y a des publics qui demandent, clairement. Il y a des publics qui ne demandent pas parce qu'ils n'ont pas l'idée de le demander. Alors là aussi, c'est à nous de travailler sur comment on va provoquer l'envie.
Et alors, à qui s'adressent les formations que vous prodiguez ?
Alors nous, au CMEA, on forme surtout des futurs acteurs. C'est-à-dire qu'on va former des animateurs, on va former des éducateurs... on va accompagner des enseignants. Donc, c'est des gens qui vont, eux, s'adresser à certains publics. Et certains qui vont s'adresser avec des publics en difficulté. Mais donc, nous, on est privilégiés. On a des publics qui viennent demander de la formation. Hein.
Peut-être dernière question sur ce système d'éducation. La notation, est-ce qu'il y en a, il n'y en a pas ? Comment est-ce que... On juge de l'acquis d'un savoir ou de.
Alors, on parle plus d'évaluation que de notation. On passe plus d'évaluation. L'évaluation des acquis. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'y arrive pas? Alors, il y a plein d'outils. Il n'y en a pas un. Il y a plein d'outils. Et puis, tous les gens qui agissent là-dedans vont se dire, tiens, dans cette situation-là, c'est cet outil-là qui va répondre. Donc, c'est est-ce que j'y arrive? Est-ce que tu penses y arriver? Et puis, bah, vas-y, fais-le. T'y arrives, t'y arrives pas. Si t'y arrives pas, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Alors quand on regarde les diplômes, notamment les diplômes d'animation qui sont gérés par le ministère Jeunesse et Sport et la Cohésion Sociale aujourd'hui, le diplôme, on n'abandonne jamais. Ça veut dire que j'essaye de montrer que j'ai acquis, je n'ai pas réussi une première fois, je retravaille un petit peu et puis je recommence, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'évaluation un peu permanente aussi.
Alors sur le carrefour des patrimoines, ce site internet, est-ce aussi parce que vous étiez isolés les uns les autres, les acteurs donc, de l'éducation à l'environnement, que vous avez voulu donc, créer cette plateforme d'information ?
Isolés, pas complètement. Alors côté des acteurs de l'éducation à l'environnement naturel, les gens n'étaient pas isolés parce que le GREN avait déjà pour mission en région d'animer le réseau de tous les acteurs. Donc de ce côté-là, il y avait déjà un travail collectif. Par contre, on trouvait que du côté d'éducation patrimoine, patrimoine plutôt culturel, c'était un peu chacun dans son coin. On ne voyait pas une coloration et un travail collectif. C'était en tout cas nous, acteurs d'animation, on avait un peu de mal à le repérer. Donc l'idée était plutôt de dire on a plutôt envie de travailler sur l'éducation au patrimoine culturel. Et d'inviter le réseau éducation à l'environnement, c'est vous avez déjà beaucoup avancé, vous avez construit collectivement des outils qui sont accessibles à tous les publics, et ben ce serait bien de s'associer avec tous les acteurs du patrimoine et d'essayer d'utiliser déjà l'avancée qu'il y avait du côté de l'éducation à l'environnement pour vulgariser. au niveau d'éducation au patrimoine, c'était, il y a quand même, et encore aujourd'hui, hein, on a encore du travail, je crois. Il y a des châteaux, il y a des musées, il y a où le public qui est sur la plage l'été, quand ils y vont, ils comprennent rien parce que les références historiques qu'on a eues en primaire, au collège, elles sont loin. On n'a pas forcément tout compris. Et alors, on arrive dans un château et on nous balance une foule d'informations et on comprend rien, quoi. Puis on sort en se disant, mais je suis bête, quoi. Alors que normalement, l'ouverture culturelle, ça permet de valoriser, pas de dévaloriser le public. Donc voilà. Alors que côté environnement, on a aujourd'hui, alors dans notre région, il y a beaucoup d'acteurs. Je trouve qu'on est assez gâtés. Et on a plein d'acteurs qui proposent au public, à tous les publics, de venir sur des randonnées, découvrir des zones, et où on leur explique tout depuis le début. Et où on n'a beau rien connaître dès le départ, on va tout comprendre. Tous ces acteurs ont réussi à simplifier. Il y a eu un gros travail là-dessus, pour vulgariser justement.
Alors s'il y a une richesse en tout cas associative, confirmez-vous aussi donc la richesse patrimoniale et environnementale de la région Languedoc-Roussillon.
Ah oui, ouais. Là on est gâtés ici, avec une diversité en plus. Enfin, quand on part de la zone catalane, Pyrénées jusqu'à Mende, enfin voilà, il y a une vraie richesse, ouais.
Si on devait mettre des mots, c'est quel domaine, quoi ? C'est l'archéologie ? Des choses comme ça?
Oui, il y a tout. Déjà, il y a toutes les périodes historiques, quoi, l'épopée cathare, mais il y a aussi la gastronomie, la viticulture, c'est vague.
Et méconnu aussi, je pense à des calvaires ou des vieilles pierres parfois dans des villages qui ne sont pas mises en avant.
Les petites chapelles. Ouais, les capitelles, toutes les petites constructions agricoles qu'on trouve partout. Et ici, quand on va sur tous les territoires, il y a une richesse partout.
Et là, pour bien comprendre, juste si on parle un peu du côté patrimoine, là, vous répartissez les rôles au sein du Carrefour des patrimoines. Et donc là, c'est plus du ressort de l'association Le Passe-Muraille.
Alors, on ne se répartit pas les rôles. Alors, les compétences sont, au niveau du patrimoine, sont plus du côté du Passe-Muraille, parce que c'est vrai qu'eux, c'est leur quotidien et ils travaillent beaucoup là-dessus. Les rôles, on se les répartit plutôt sur les actions.
Quelles sont les actions?
Alors il y a trois actions. La première action, celle qui a vu le jour en premier, qui a été portée par les CMEA, parce qu'on a été un peu à l'origine de ce rassemblement, c'était de dire il faut qu'on puisse identifier un petit peu tous les acteurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un enseignant qui veut se dire tiens, avec ma classe je veux monter des murs en pierre sèche, où est-ce que je vais trouver les gens qui vont m'accompagner dans ce projet? Je veux travailler sur la gastronomie qui à côté de chez moi. Donc l'idée était de pouvoir informer tout le monde, dont le projet du site internet, qui s'appuyait sur la conclusion d'un projet que le GREN avait monté. Eux, quelques années avant, ils avaient fait un petit guide papier de tous les acteurs d'éducation à l'environnement. Et ils nous ont dit, c'est quand même plein de petites associations qui sont fragiles. Et donc, quand le guide est sorti de l'imprimerie, eh bien, il y en avait déjà qui avaient disparu et des nouvelles qui étaient nées. Donc, on s'est dit, ils nous ont dit surtout, rentrez pas là-dedans parce que on est dans des secteurs très fragiles. Donc, bon, Internet, voilà, c'était l'outil. Donc, on a créé ce site Internet, on a rencontré les structures. Alors, c'est pas un simple bottin. Ça veut dire qu'à chaque fois, on présente la structure, combien il y a de salariés, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils ont des outils pédagogiques, comment ils peuvent accompagner des animateurs, des enseignants. Alors, c'est vrai que ce qu'on cible, c'est surtout des gens qui veulent monter des projets et qui vont, l'idée, c'est de réunir des partenaires.
Une question, l'inscription à cet annuaire, c'est vous qui allez chercher les associations ou c'est elles qui se proposent?
Il y a les deux.
Ça va dans les deux sens.
Ouais.
Et du coup, sur quels critères vous sélectionnez ou pas?
Oui. Le critère, c'est d'avoir envie de s'ouvrir aux autres. Une association de sauvegarde qui dit, nous, on travaille sur le patrimoine de notre chapelle, mais on veut en parler à personne et on veut la faire visiter à personne, ça ne nous concerne pas. L'idée, c'est toute personne qui a une compétence ou qui a un patrimoine, qui sait s'en servir ou pas, enfin qui sait l'utiliser ou pas, mais en tout cas qui a quelque chose et qui dit j'ai besoin des autres pour venir le visiter ou pour nous aider à monter des animations dessus. Donc l'idée est d'avoir envie de partager. Et voilà, donc ça a été la première action. Alors sur le site s'est enrichi parce qu'aujourd'hui on annonce aussi sur le site toutes les manifestations de toutes ces associations là. Donc aujourd'hui il y a 300 structures qui sont répertoriées, les ouvrages de référence, enfin voilà, les formations que les structures font. Donc on essaye aussi d'annoncer toute l'actualité de ce réseau. La deuxième action qui a vu le jour, c'est l'action. Donc là, c'était l'idée de dire bon, bah voilà, on met les gens, on permet de mettre les gens aux raisons. Maintenant, faut alimenter avec plus de contenu. Donc l'idée d'avoir un journal qui est plutôt une revue
papier,
aujourd'hui,
là,
papier, et qui avec trois numéros par an, et qui à chaque fois va mettre le phare sur soit une zone de la région, soit sur une thématique. Et qui va mettre le phare sur les acteurs de cette zone-là ou sur les acteurs de la thématique. Là, celui qui vient de sortir, là, qui est sorti de presse ces derniers jours, est sur les causes. Voilà. Donc, tous les causes, quand on part du nord de l'Hérault jusqu'en Lozère, qu'est-ce qui se fait sur ces causes? Et on a essayé de chercher tous les acteurs qui étaient là, qui proposent des choses. La revue est beaucoup basée autour des acteurs, de ce qu'ils peuvent nous dire, de leurs témoignages.
C'est une action qui est portée par l'association Passe-Muraille. En termes de distribution, cette revue, où est-ce qu'on peut la retrouver?
Alors,
à qui est-ce qu'elle s'adresse?
Alors, elle est gratuite, déjà. Elle est gratuite parce qu'on est accompagné par le conseil régional, d'autres jeunesse et sport. Enfin, voilà, il y a d'autres structures qui nous accompagnent, ce qui nous permet de l'avoir gratuitement. Alors, il y a un abonnement qui correspond aux frais d'envoi. Donc, les structures peuvent s'abonner sur le site ou directement au Passe-Muraille. Et l'abonnement correspond aux frais d'envoi à domicile. Et sinon, on a tout un réseau de distribution. Donc, sur le site, on annonce le réseau de distribution par les associations du réseau qui, elles, sont souvent dépositaires.
Dernière action, les journées de rencontre. Donc là, qui est portée par le GREN Languedoc-Roussillon.
Voilà, qui est plus animée par le GREN. Là, l'idée était de se dire, maintenant, on va se former les uns les autres. Chacun a des compétences différentes. Donc, on se retrouve. Alors, jusqu'à maintenant, c'était deux fois par an. On se retrouvait autour d'une des structures qui nous présentait un petit peu ce qu'elle faisait. Et puis après, il y a des ateliers de discussion, d'échange qui permettent de se dire, tiens, ce que vous faites, est-ce que ça peut me servir? Est-ce que je peux faire la même chose? Est-ce qu'on peut s'aider? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Voilà, c'était un petit peu l'objectif. Là, en 2010, on a envie d'aller un petit peu plus loin et de réunir les acteurs sur des mini-stages de 3 jours où là, on se dirait, tiens, on se met sur un endroit où il n'y a rien, un site qui n'est pas très valorisé, puis ensemble, on essaye de le valoriser. C'est un principe de co-formation. On se forme les uns les autres à l'intérieur d'un même réseau.
Vous citiez la région ou peut-être donc les ministères via donc les directions départementales ou régionales de jeunesse et sport. Quel est justement votre lien là avec le politique quand vous essayez de promouvoir la sauvegarde du patrimoine ou l'éducation à l'environnement? Est-ce que vous êtes totalement indépendant, par exemple?
Qu'est-ce que l'indépendance? Oui, mais en même temps, on est accompagné. Moi, j'aurais plutôt envie de dire qu'on est accompagné. Dans chacune de ces projets, il y a des comités de pilotage. Il y a un comité de pilotage où il y a les trois associations. On se réunit tous les 2 mois, à peu près. Et puis, par exemple, autour de la revue, il y a un conseil scientifique d'éducation où là, va y avoir la DRAC qui va être présente. Il y a des gens des conseils généraux qui sont présents et qui, dans ce conseil scientifique, décident aussi avec nous de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met dans ces numéros-là, qu'est-ce qu'on valorise. Et on travaille notamment avec le service culturel sur les journées du patrimoine. Puisque il y a un des numéros qui sort avant les journées du patrimoine, et dans ce numéro-là est distribué en même temps tout le programme des journées du patrimoine. Et ce numéro-là, en général, est en relation avec le thème régional des journées du patrimoine.
Et toutes ces structures donc institutionnelles, est-ce qu'elles vous accompagnent à la hauteur que vous espérez?
Oh, jamais assez, non. Financièrement, jamais assez. mais en tout cas, elles nous ont permis de démarrer et elles nous permettent de vivre aujourd'hui. Voilà. Après, ce qui est difficile, alors Il y a la région qui accompagne, il y a, voilà, il y a certaines antennes ministérielles qui accompagnent. Ce qui est difficile, c'est les conseillers généraux, parce qu'ils se disent bah, c'est la région, c'est pas le département, mais on valorise, on fait toujours attention de valoriser les 5 départements. Donc là, c'est aussi souvent un peu l'ambiguïté, de se dire, bon, est-ce que c'est les 5? S'il y en a un, il va dire, mais alors, vous travaillez pas que pour moi, enfin, vous ne valorisez pas que mon département. Voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué d'arriver à mettre tout le monde.
Et juste sur le patrimoine et sa valorisation, on sait que parfois, techniquement, ça peut coûter très cher et qu'il est justement abandonné. Est-ce que je trouve plus le verbe, est-ce que vous remplacez le rôle des politiques à certains moments ou pas?
Non, de ce côté-là, non. On est vraiment sur un réseau de services et d'échanges permettent aux gens de mieux travailler ensemble. Mais après, dans les structures, on n'agit pas, on n'accompagne pas. Alors là, on se pose la question de est-ce qu'on pourrait pas parce que souvent, les structures nous disent « aidez-nous à trouver des sous ». Parce qu'il y a vraiment un gros problème de sous tout le temps. Pour avoir un animateur qui va animer, on a plein de monuments qui sont protégés par des associations, qui sont entretenus par des associations, mais ils disent cette chapelle, s'il n'y a pas quelqu'un qui explique l'histoire de cette chapelle, le touriste il passe à côté, il la découvrira pas. Et un animateur faut le payer. Et comment on le paye? On n'a pas de sous. Enfin voilà, c'est et là, souvent, ils nous demandent, mais aidez-nous aussi pour monter des dossiers, aller chercher des sous. C'est pas les compétences qu'on a mis en place aujourd'hui. On se dit peut-être qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus et qu'on accompagne. Mais c'était pas notre idée, forcément de départ.
Résumé, l'émission du Carrefour du Patrimoine, c'est donc de valoriser, de coordonner, d'informer et de conseiller. Ça fait beaucoup de travail pour 3 structures qui portent. Est-ce que là, vous avez 10 ans de... Je crois que c'est un projet qui est né dans les années 2000.
Ouais.
On est en 2010, donc il y a une dizaine d'années de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où finalement, vous êtes à dire il faut qu'on soit plus à travailler sur ce projet-là?
Elisabeth Lebris, chargée de mission éducation à l'environnement et patrimoine pour le réseau des CMEA en Languedoc-Roussillon.
On commence à se poser la question, de se dire, est-ce que... Mais c'est vraiment le début, voilà. On commence à se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas inviter d'autres acteurs, mais...
Il n'y a pas un phénomène d'épuisement au sein de vos structures sur cette initiative?
Je ne crois pas, non. En fin de compte, comme il y a une répartition des trois actions, les trois actions sont pas si lourdes que ça. Alors c'est vrai que nous, par exemple, si je prends le cas des CMA sur le site internet, il y a une personne qui s'occupe, je dirais, de l'entretien du site. Voilà, ça représente à peu près 10% de son temps de travail. Donc c'est, voilà, c'est un petit entretien quotidien, mais c'est... Après, il y a sur le passe-muraille, il y a une équipe qui travaille autour de la revue et je crois qu'ils prennent beaucoup de plaisir et ils travaillent pas que là-dessus, mais je crois que voilà, ils s'y retrouvent bien.
Je pose la question, moi, c'est vrai que quand on regarde les associations qui sont des activateurs d'énergie, c'est vrai que des fois on a aussi du mal à trouver sa propre énergie et à rebondir de projet à projet pour avancer.
Pour le moment, on n'en est pas là. On va peut-être. Alors, on y serait si. Je crois que si on bouge pas. Parce que là, on vient. Ça fait pas si longtemps que ça. Comme les opérations sont mises en place les unes après les autres, en fin de compte, ça fait pas longtemps que les trois marchent. Et puis en plus, déjà sur les rencontres d'acteurs, on est en train d'essayer de chercher une deuxième vie avec autre chose. Donc, du coup, c'est du nouveau projet. On n'est pas sur l'entretien d'un train-train. Donc, il n'y a pas épuisement. Là, par exemple, on se dit 2011, on aimerait bien organiser un gros rassemblement de tous ces acteurs en région. Donc, on travaille. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais je crois que tant qu'on a de nouveaux projets. Ça entretient le dynamisme. Côté revue, il y a un quatrième ouvrage qui est né depuis l'année dernière, qui est l'agenda, qui sort pour l'été et qui là est vraiment vise vraiment les touristes qui viennent dans notre région et pour mettre en valeur ce qui est proposé pendant l'été par ces associations de réseau qui sont souvent des petites associations qu'on retrouve pas forcément dans toutes les informations très médiatisées et qui proposent des choses qui souvent sont très peu chères, gratuites. Donc il y a cet agenda voilà qui sort maintenant à partir de mai. Donc ça, c'est aussi pour eux un nouveau dynamisme de travailler là-dessus. Parce que la revue, elle est faite quand même pour les acteurs de la région. Elle est faite pour le réseau et puis pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu, des enseignants. Mais elle n'est pas en direction du public qui vient ici pour découvrir la région. Et là, ça va être l'agenda qui depuis l'année dernière, se met en place.
Carrefour des patrimoines, donc avec le mot carrefour, on comprend très bien que c'est un lieu d'échange. Aujourd'hui, sur la fréquentation du site internet, c'est quel type de public qui... Est-ce que vous arrivez à avoir une idée, savoir si c'est plutôt la partie grand public ou plutôt les animateurs du réseau éducation environnement qui sont friands d'aller chercher, piocher de l'information sur ce site?
Alors, on n'a pas
une... Vous adressez aux deux publics.
Ouais. On n'a pas une lecture exacte quand même. L'impression qu'on a, mais on ne peut pas confirmer réellement d'après les entrées sur le site, il y a un peu les deux. Il y a des gens qui viennent par hasard, parce que quand sur Internet on tape patrimoine en Languedoc-Roussillon, on arrive très rapidement sur notre site. Donc il y a des gens qui viennent voir, puis par les événements. Alors au moment des journées du patrimoine, on sait que c'est un public extérieur qui vient chercher l'info sur ce qui se passe pendant les journées du patrimoine. Et comme on annonce tout ce qui se passe dans nos associations, ils viennent chercher de l'info là. On sait qu'il y a quand même pas mal d'étudiants. Alors, on travaille avec l'équipe du Master Patrimoine de Paul Valéry. Eux, ils font partie du conseil scientifique de la revue. Donc, on sait que les étudiants vont aussi chercher des informations, que des stagiaires vont chercher des structures où ils vont pouvoir faire des stages. Donc, on sait qu'à l'interne, c'est utilisé. Notre interrogation, c'est est-ce que les enseignants viennent beaucoup ? Il y a des enseignants qui viennent, mais voilà, on n'est pas complètement sûr.
Et en termes de visites, vous savez combien de fois il est visité ?
On a des pics, ça va, dans les mois les plus calmes, hein, 350 visites dans le mois, jusqu'à 800 dans les mois d'activité. À partir du printemps, là, on sait que ça monte beaucoup.
Voilà. Vous arrivez à avoir des retours, quoi, des commentaires sur la structuration du site ? Est-ce que les gens arrivent facilement à avoir l'information qu'ils veulent avoir ou...
On a des commentaires quand ça
entre
fonctionne.
Entre guillemets, enfin, ouais. Satisfaction, quoi. Des utilisateurs.
Pas tant que ça, non. Mais on n'a rien mis en place pour avoir des retours. Par contre, on sait qu'ils nous appellent quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand ils n'arrivent pas à trouver...
Ça bug.
Voilà, quand ils n'arrivent pas à... Donc là, on en est à la troisième phase du site. Le premier site a été un tout petit site, puis ça vite... on n'arrivait plus à fournir, donc on est passé sur une deuxième génération de site. Et là, on rentre dans une troisième génération de site pour répondre à toute cette demande, pour qu'il soit un peu plus interactif. Les gens veulent rentrer des informations, faire évoluer leur structure dessus. Et puis, il y a la revue qui est en ligne dessus. Donc, les gens aussi vont télécharger. Alors, par la revue, souvent, les gens... On sait que quand la revue sort, tout le monde vient sur le site. Parce que dans la revue, il y a un lien. Donc, dès qu'il se passe quelque chose sur une action, il y a le lien avec, avec les deux autres. Et ça, on a la lecture par le site de ça.
Donc, on parlait d'autres réseaux tels que le Grain LR. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui sont en lien avec cette plateforme ? Pas forcément de l'éducation à l'environnement, hein, sur un sens beaucoup plus large. Parce qu'au niveau départemental, ici sur les Rhônes, on a le réseau Coopère 34. Est-ce qu'il y a aussi comme ça des liens qui se font avec des plateformes départementales ou plus petites ?
Oui, bah avec les réseaux départementaux, oui, ils sont présents. C'est souvent les mêmes structures. Alors nous, on est aussi présents auprès de ces réseaux-là.
Parce que là, en fin d'émission, on aura le réseau Tela Botanica. Ceux qui ont, donc là, c'est la botanique. Il y a plein de réseaux qui se forment sur Internet. Est-ce qu'il est comme ça évident d'en rajouter un de plus en disant bah, celui-là a autant de mérite à exister qu'un autre, ou comment est-ce qu'on arrive à se faire sa place dans ce monde de réseaux?
Alors après, les réseaux n'ont pas tous la même implication. C'est-à-dire que pour les structures, Carrefour des patrimoines, c'est simple, ils sont présentés dessus. Et puis on leur propose des choses. Alors on propose une revue, puis on leur propose deux rencontres par an. Donc ça ne les implique pas. Donc, alors que quand ils sont dans d'autres réseaux, il y a des réseaux où ils sont beaucoup plus actifs. Donc c'est vrai que ce réseau-là, il est assez light dans l'implication. C'est un réseau de plus pour se faire connaître auprès d'un autre public qui va rentrer différemment. Si on était sur quelque chose qui demanderait beaucoup plus d'implication, l'implication, elle est des trois associations pour le moment, mais quelque chose qui demanderait plus d'implication, peut-être que pour certains, ils diraient non, je suis impliqué sur mon département, je suis impliqué dans mon réseau de patrimoine ou mon réseau d'environnement et je peux pas m'impliquer beaucoup plus. Donc ça, c'était aussi la réalité du Carrefour des patrimoines, c'était de dire on rend un service. Alors, c'est un réseau light, voilà. Donc, des fois, on se dit, est-ce que c'est vraiment un réseau ? Parce que les gens s'y impliquent très modérément par rapport à d'autres réseaux. Mais l'idée était d'aller toucher des publics que les réseaux un peu plus spécialisés ne touchaient pas forcément. Mais peut-être qu'on... voilà, à un moment donné, on s'est dit, il y a un besoin... Un réseau peut disparaître du jour où on se dit, tiens, il n'y a plus besoin. Pour le moment, on s'y retrouve encore et il y a des gens qui répondent. La revue, à chaque numéro de revue, il y a de plus en plus de gens qui viennent la chercher. Tant qu'il y a des gens qui viennent sur les rencontres d'acteurs, tant que tu as des gens qui viennent sur le site, on se dit, bah voilà, ça répond en tout cas à quelque chose. Et ça augmente. Jusqu'à maintenant, ça fait qu'augmenter.
Oui, parce qu'en synthèse, les associations, ce qu'elles viennent chercher, c'est que de la diffusion de leur information et puis de la recherche de formation ou voilà, de comment est-ce qu'on fait une sortie et comment on organise. Et puis le public, finalement, ce qu'il vient chercher ici, c'est plutôt peut-être la partie agenda, événementiel c'est une synthèse, quoi, une hiérarchisation de l'information, un tri qui est déjà effectué et une sélection.
Oui, on voit le vendredi, il y a des connexions, c'est qu'est-ce que je vais faire ce week-end. Voilà.
Le site internet, donc Carrefour des patrimoines. Juste avant donc de refermer cet entretien avec vous, Elisabeth Lebris, vous êtes aussi donc formatrice. Alors, sans nous faire une formation, je pense que vous me diriez non direct à l'antenne, mais au moins, en fait, je suis curieux de savoir à la fin de la formation, quand vous avez des jeunes personnes ou plus âgées qui veulent devenir animateurs environnement, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil avant de partir, en fait, ou qu'est-ce que vous leur donnez comme idée majeure à retenir ?
Faites-vous plaisir, déjà, ça c'est sûr. Et puis, allez animer ce que vous aimez, vous. Parce qu'en fin de compte, quand on prend patrimoine naturel, patrimoine culturel, mais... C'est très très vaste. Donc voilà, il y en a qui sont passionnés d'orchidées, il y en a qui vont être passionnés d'oiseaux, d'autres de vieilles pierres. Quand on est animateur environnement patrimoine, on n'est pas obligé d'être compétent dans tout. Puis on n'est pas obligé d'être très pointu. C'est aussi des fois une approche sensorielle. C'est voilà, on n'a pas besoin de forcément de connaître le nom des plantes pour emmener des gens en balade et leur dire regardez c'est joli, qu'est-ce que vous en pensez, dans ces plantes il y a des pigments, on peut dessiner avec, on peut faire plein de choses. Ben voilà, c'est surtout attention, quelle est votre entrée, vous emmènerez les gens sur ce que vous aimez. Vous ne sentez pas obligé de faire un cours de botanique quand vous êtes intéressé par les oiseaux.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque ? Parce que, alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que l'éducation à l'environnement, c'est quoi ? C'est à peu près depuis 30 ans que ça se développe ou que ça existe vraiment, que c'est reconnu, que le terme est utilisé ici ou là. Donc c'est quelque chose qui se développe. Il y a de plus en plus de formations qui s'appellent éducation environnement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque d'une dérive ou d'arriver vers quelque chose, finalement tout le monde dira, moi je fais de l'éducation environnement et puis on ne sait plus ce que c'est.
Alors déjà moi je pense que ce serait bien que tout le monde fasse de l'éducation environnement. Je crois que ça fait partie.
Il faut prendre le risque.
Ça fait partie de l'acte éducatif. Voilà, et quand on emmène nos gamins en forêt, trouver du plaisir à jouer en forêt, c'est un premier pas. C'est fou. Et ça, faut. Il y a eu à un moment donné, alors ma lecture là, elle est un peu personnelle. Je crois qu'à un moment donné, quand on a commencé à avoir des professionnels de l'éducation à l'environnement, quand des diplômes sont arrivés, les gens se disaient, l'animateur classique disait, ou l'enseignant classique disait, j'y vais pas, il était spécialiste et je suis pas spécialiste. Et là, on s'est appauvri. Parce que des spécialistes, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et aujourd'hui, on revient sur... Mais oui, c'est simple, l'éducation à l'environnement. C'est regarder ce qu'il y a autour de nous, prendre du plaisir. C'est aussi ça. Alors, après, comment ça peut être détourné, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est de l'éducation générale. Dans une éducation générale, on apprend à écrire, à lire, à écouter. Il y a de la musique, il y a de la nature, il y a de l'histoire, il y a des monuments, il y a tout. Ça fait partie de...
Peut-être une dernière question. Donc sur le site internet, c'est intitulé Carrefour des patrimoines, sous-titre Rencontre pour une éducation à la citoyenneté. Quel lien avec ce terme, cette notion citoyenneté ?
Alors moi, je crois que pour être acteur sur son territoire, déjà si on parle simplement de son pays, de sa région, de sa ville, pour y être acteur, faut y être bien. Et pour y être bien, faut savoir comment elle fonctionne, comment elle est faite, pourquoi elle est construite comme ça, pourquoi les gens vivent comme ça, qu'est-ce qui nous rassemble, quel est notre patrimoine commun. Et à partir de là, on peut plus s'impliquer. C'est souvent le problème quand on fait de l'insertion. Et dans la région, on est assez spécialiste. Hein, on a quand même plus de la moitié de la population de la région qui est pas née ici. Donc, on est une région où on voit des gens arriver continuellement. Et puis, ils arrivent ici, puis il faut s'insérer. Si je suis pas bien ici, c'est difficile de vouloir s'installer, être acteur quelque part. Si je comprends pas comment les gens parlent, comment les gens fonctionnent, on nous dit les gens du Sud, ils sont comme ça. Non, il faut se dire, voilà, les gens du Sud, ils sont avec une histoire, je la connais. Pourquoi la ville est construite comme ça? Pourquoi elle fonctionne comme ça? Puis une fois que je comprendrai, je me dirai, ça me plaît, j'y reste, ou ça me plaît pas, je vais ailleurs. Voilà. Donc je crois qu'on peut pas être citoyen si on n'est pas bien où on est, quoi.
Merci beaucoup en tout cas d'être venue en studio, Elisabeth Lebris, chargée de mission éducation, environnement et patrimoine au sein des CEME au niveau régional et national. Vous êtes basée du côté de Béziers ?
Oui.
C'est ça. Et puis ce site internet, donc Carrefour des patrimoines en Languedoc-Roussillon, hein, vous précisiez bien que vous vous intéressez aux 5 départements qui composent la région.
On peut peut-être juste donner l'adresse quand même du site. carrefour-des-patrimoine.net.
Merci beaucoup. Dans un instant, nous retrouverons deux autres associations, Sebena et puis Tela Botanica, pour quelques idées de sortie en ce mois de mai. Pause musicale avec Julien Jacob. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Yeah, yeah.
Violette Roche, bonjour et bienvenue dans l'émission L'eau à la bouche.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du projet sur l'Observatoire des saisons porté par l'association Tella Botanica. On va parler notamment des orchidées, mais juste avant, quelques mots sur cette association Tella Botanica basée à Montpellier.
Alors, Tella Botanica, c'est une association qui a aujourd'hui 10 ans. Elle comprend, donc c'est un réseau qui comprend plus de 12 000 inscrits qui partagent des connaissances et contribuent au développement de ces connaissances sur la botanique. Donc l'équipe développe des outils participatifs qui permettent aux gens de discuter. Et donc tout bénévole, toute personne extérieure peut trouver des renseignements sur la botanique et se former à la flore et plus largement donc à l'environnement.
Et alors là, donc pour ce printemps 2010, appel à tous les auditeurs pour observer la floraison des orchidées. Alors pourquoi lancer cet appel ?
Alors du coup, Tella Botanica, au sein de l'association, on a des projets, on aide des scientifiques notamment à faire appel à des citoyens. Donc c'est des scientifiques qui ont plus à la capacité en fait de couvrir par exemple un large territoire et d'avoir des données sur des longues périodes de temps. Et du coup, ils ont besoin des citoyens pour récupérer des données sur la biodiversité. Et donc notamment, Tella Botanica, on coordonne le projet Observatoire des saisons, qui est tenu par un groupement avec un groupement de recherche scientifique.
Alors pourquoi les orchidées ?
Alors les orchidées, c'est parce qu'on a l'opportunité de pouvoir travailler avec la Société française d'orchidophilie cette année. Et que les orchidées sont pour la plupart, elles sont présentes sur tout le territoire français. Il y a plus de 150 espèces en France, et pour la plupart, elles sont protégées à l'échelon national ou régional. Donc en fait, il est primordial de bien comprendre comment ces espèces vont réagir face au changement climatique en cours, et pour du coup mieux conserver notre patrimoine naturel.
Alors, précisez-nous comment on observe une plante et quelle information donc le citoyen peut-il faire remonter.
Donc là, spécifiquement pour les orchidées, l'Observatoire des saisons comprend beaucoup d'autres espèces, notamment beaucoup d'arbres différents, comme le forsythia, qui est l'une de nos grandes stars, ou le lilas, ou encore le marronnier, qui est en train de fleurir en ce moment. Et donc les orchidées, si jamais vous en avez dans votre jardin, c'est facile à reconnaître, il y a quatre critères. Donc c'est une plante qui a une seule tige, elle a des feuilles à nervures parallèles, elle a des fleurs à trois pétales et trois sépales, et il y a l'un des pétales, qui est celui du milieu, qui s'appelle le label, et qui est souvent avec des formes très surprenantes et des couleurs très variées qui permettent d'attirer les pollinisateurs. Donc si on voit cette orchidée, ce qu'il faut noter, c'est la première fleur qui fleurit sur la grappe. Voilà. Et puis en ce moment, autour de chez nous, surtout dans le sud, là, on peut observer en pleine floraison l'Ophrys lutea et la céphalanthère à feuilles étroites, par exemple. Et puis pour tout ce que vous pouvez noter actuellement sur l'Observatoire des saisons, donc c'est noter la date de la première fleur sur la grappe. Il y a l'orchis pourpre qui est en début de floraison et l'orchis pyramidale. Voilà, et puis dans les mois, dans les semaines à venir, on verra sûrement fleurir l'orchis bouc aussi dans les prairies et l'orchis abeille. Donc c'est des orchidées qui sont dans l'Observatoire des saisons. C'est facile à observer, il suffit de noter la date, de rentrer la date sur le site internet. Et après, derrière, ces données sont traitées par des scientifiques, puis vulgarisé et via des lettres d'actualité diffusées auprès du réseau.
Le site internet, donc www.obs, pour l'abréviation donc d'observatoire, obs-saison au pluriel.fr. Dites-nous si c'est une expérience qui a déjà été faite en France ou ailleurs de lancer comme ça un appel aux citoyens pour observer les plantes.
En France, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Il y a le Muséum d'Histoire Naturelle qui a lancé plusieurs programmes dans citoyens. On appelle ça des programmes de sciences participatives. Ça existe depuis bien plus longtemps dans les pays anglo-saxons, depuis une vingtaine d'années. Et en France, c'est assez récent. Et puis donc, on peut observer beaucoup de choses. On peut observer les papillons, les escargots, les bourdons, la pollinisation, par exemple, en prenant des photos de fleurs. Et tous ces renseignements, donc il y a récemment, on a édité un livret qui s'appelle « Observons la nature, des réseaux et des sciences pour préserver la biodiversité ». Et donc vous pouvez le trouver aussi sur le site internet de Tella Botanica, il est en téléchargement gratuit. Il présente 45 projets de sciences citoyennes présents en France en fait. Donc il y en a pour tous les goûts, il y a du marin, il y a tout ce qui est oiseaux, il y a insectes et puis tout ce qui concerne la flore et aussi la faune et les mammifères.
Et enfin, quand est-ce que seront connus les résultats de cette observation sur les orchidées ?
Alors en fait, il y a deux dossiers annuel. Donc un est diffusé au début de l'automne et l'autre au printemps. Donc il y en a déjà un qui a été diffusé sur les données de l'année dernière, sur le lilas notamment, et sur les dernières floraisons. Et donc le prochain sera début septembre, et donc sera un résumé de l'activité scientifique, enfin de tout ce qui s'est déroulé durant l'année.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Violette Roche, coordinatrice du projet lié à l'Observatoire des saisons. Davantage d'informations également sur le site de votre association, donc Tella Botanica, basée à Montpellier, www.tella-botanica.org. Bonne fin de journée.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Perdu le souffle de ta voix, Kelly. Perdu la mémoire de toi, Kelly. Nosel ram la rum rob, Nosel ram la rob. Perdu toute sensation de toi.
Magali Peyre, invitée de l'eau à la bouche en ce mois de mai. Magali Peyre, vous êtes animatrice nature au centre Sébéna à Aulargues. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Alors le centre Sébéna, une association d'éducation à l'environnement qui organise tout au long de l'année des animations, des sorties, des conférences et des expositions. On va en parler dans un instant, ça se passe surtout sur le territoire du Haut-Languedoc-Hérolté. Mais juste avant, une précision, le centre Sébéna est aussi une antenne du Conseil Général de l'Hérault.
Oui, tout à fait, au niveau de tout ce qui est médiathèque, hein, au niveau de tout ce qui est la bibliothèque. On est une antenne de ces ouvrages-là, donc il y a des gens qui peuvent venir retirer des livres, il y a toute une collection que chaque année on suit en fait avec avec l'antenne du département à Montpellier.
Donc situé au centre-ville d'Aulargues, à l'ouest Hérolté. Alors intéressons-nous à présent aux prochaines sorties que vous nous proposez au mois de mai et juin. Donc la première, la découverte des plantes sauvages alimentaires et puis plus particulièrement la pivoine sauvage des monts d'Orbe.
Oui, tout à fait. Donc ça c'est une intervention qui va se faire avec un botaniste, Monsieur Jacques Salabert. Donc en fait, ils vont découvrir sur le sentier de Marcoux, on va découvrir les plantes et toutes leurs vertus culinaires et les sites botaniques un peu uniques en France. Donc notamment cette pivoine, la piquante pimprenelle et bien d'autres fleurs en fait, qui sont pour certaines protégées sur le plan national. Donc cette balade va avoir lieu le samedi 8 mai. L'organisation de la journée, donc il y a un rendez-vous qui est à 14h sur la place de Graissesac, où vous allez découvrir toutes ces plantes et apprendre plein de choses sur elles.
Et puis s'en suivra donc une projection d'un film un peu plus tard, donc en ce samedi 8
voilà.
mai à 17h30.
À 17h30, une projection qui a été un film qui a été tourné pour la chaîne Voyage sur balade dans les monts d'Orbe. Voilà, et ça va se suivre après par un repas. Donc il y aura donc après avoir peut-être cueilli quelques plantes culinaires. Vous aurez que le botaniste aura permis de découvrir aux gens tous ces aspects-là. Vous allez à 19h faire un repas. Ils vont déguster un peu tout ce qu'ils auront un peu ramassé.
Journée...
Et après ce repas-là, il va avoir une projection de diaporama. D'un diaporama 20h30 sur la flore des monts d'Orbe.
Journée découverte donc sur ces plantes sauvages alimentaires et plus particulièrement la pivoine sauvage des monts d'Orbe en ce samedi 8 mai. Donc rendez-vous sur la place de Graissesac à partir de 14h. Alors vous proposez d'autres animations et d'autres sorties comme par exemple la découverte des amphibiens.
Alors là c'est dans le cadre des promenades inédites un programme qui est chaque année mis par le département de l'Hérault à différentes associations et sur différents domaines départementaux. Donc nous, on intervient là pour eux dans le domaine départemental de l'Alvine, un site qui est à côté de Colombières. Donc le vendredi 7 mai et le vendredi 28 mai, on va découvrir tout ce qui est le monde des amphibiens. Donc on va avoir à Sébénat, l'accueil se fait à Sébénat, à 20h, il y a un petit diaporama pour voir un petit peu ce que c'est le monde amphibien, voir quelques espèces, mais l'important c'est qu'après, en voiture, en covoiturage, nous allons partir de Sébénat jusqu'au site départemental pour découvrir en fait vraiment au crépuscule et en début de la nuit les champs et essayer de rencontrer ces amphibiens. Voilà, et de voir avec eux un peu comment on peut les déterminer à travers leur champ et à travers des aspects morphologiques. Donc ça, c'est le 7 et le 28 mai, les vendredis.
Sorties payantes ?
Et non, c'est gratuit. C'est des sorties qui sont gratuites, mais le département, c'est pour valoriser en fait le site qui appartient au département au niveau patrimonial bâti, au niveau patrimonial naturel, donc tout ce qui est espèce animale.
Juste, vous pouvez nous le présenter, le site de l'Albine, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors c'est un site qui se situe, donc je vous ai dit, à Colombières. C'est un site où il y a aménagé pas mal de terrasses en pierre sèche, donc là c'est intéressant. Et à Mampalum, pas très loin de la rivière l'Orbe. Et il y a quelques petits bâtis, il y a des béals, donc c'est des canaux d'irrigation. Et à un moment donné, il y a un genre de retenue d'eau, un puits, où là, ben justement, on va essayer de découvrir toute cette faune aquatique, et notamment les amphibiens.
Et puis enfin, juste pour terminer donc ce coup d'œil rapide sur la programmation du centre Sébénat basé à Aulargues, vous proposez en juin eh bien qu'on s'intéresse à l'apiculture.
Voilà, l'apiculture avec un intervenant aussi qui va faire une conférence, Monsieur Vincent Tardieu. Donc il a écrit un livre qui s'appelle « Le silence des abeilles ». Donc il y aura une dédicace et il y aura toute une conférence sur ce livre-là et sur le monde des abeilles.
Merci beaucoup Magali Peyre, animatrice nature au centre Sébénat. Bonne fin de journée.
Oui, merci, au revoir.
Je donne quelques informations pour les auditeurs intéressés. Donc le centre Sébénat est basé à Aulargues. Un numéro de téléphone, le 04 67 97 88 00, 97 88 00, et puis un site internet www.sebena.org. À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. L'eau à la bouche, c'est fini pour ce mois-ci. Une émission mensuelle diffusée sur Radio Pays d'Hérault jeudi 6 mai à 11h, diffusée le samedi 8 mai à 11h, sur Divergence FM le mardi 4 mai à 13h30, Radio Clapas les jeudis 6 et 20 mai à 21h et les dimanches 9 et 23 mai à 10h. Rendez-vous le mois prochain. À bientôt.